Europe 1,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, jusqu'à midi, c'est votre magazine bien-être dans lequel on fait tout pour vous rendre le quotidien plus simple. Alors justement ce matin, on va se recentrer sur la simplicité puisqu'on va vous poser cette question. Pourriez-vous être minimaliste? Alors Julia, vous pourriez-vous?
Écoutez, je vous répondrai à la fin de l'émission car justement aujourd'hui on va déjà définir ce que c'est ce concept de vie, le minimalisme. On comprend bien que cela commence par la réduction de notre consommation, mais cela peut aller encore plus loin et toucher tous les domaines de notre vie, possessions matérielles, relations personnelles, activités, loisirs, etc. Comment viser cet objectif? On va faire le point ce matin avec nos invités, Lucie Lebas, elle est consultante en minimalisme, ainsi que Jonathan Benabed, il est réalisateur et co-auteur du livre Tiny House Living Stones aux éditions Erol.
Ensuite, à 11h45, ce sera notre partie tendance. Tout d'abord, Séverine Pierron nous parlera du doom scrolling. C'est cette habitude de faire défiler son fil d'actu sur les réseaux sociaux. Ça peut même être chez certains très nocif. Elle nous expliquera tout ça. Et puis à la fin de cette émission, on se mettra à table avec le chef Abdel Alaoui qui nous propose un focus sur les confitures. Aujourd'hui, il nous donnera ses astuces de pro pour les réussir à la maison, à tous les coups. Voilà le menu du jour. Bien fait pour vous, c'est tout de suite.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, bienvenue dans votre émission Bien-être Feel Good. Notre question du jour, je vous la pose, pourriez-vous être minimaliste? Alors déjà, il faudrait savoir ce que ça signifie concrètement. On va peut-être commencer à y voir plus clair grâce à Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Bonjour, alors je ne sais pas si je pourrais devenir minimaliste, j'ai en tout cas regardé la définition. Selon moi, c'est prendre du plaisir à vivre avec peu. J'ai une petite expérience dans le domaine, le jour où je suis arrivé à Europe 1 et que j'ai vu la RH et qui m'a dit non, toi tu peux faire très bien avec très peu. Donc je me considère déjà un peu comme minimaliste et puis je me suis rendu compte qu'il y en avait un qui était meilleur que les autres, celui qu'on connaît tous, le plus grand minimaliste du monde peut-être, c'est lui. Vous reconnaissez?
C'est quoi ça déjà?
C'est quoi ça? Vous l'avez? C'est Tintin.
Ah oui,
c'est Tintin.
Et bon, quoi, Tintin,
45 pays, une seule tenue.
Ah oui.
Il voyage léger, pas besoin de valise, puisque les vêtements du lendemain, il les a déjà sur lui, donc bravo. Comment devenir minimaliste? On va essayer de répondre à cette question, il existe plusieurs moyens. Vous verrez qu'on a justement des consultants, des coachs en minimalisme, mais le meilleur moyen de devenir minimaliste, c'est quand même le fisc. Et je connais notamment un couple du côté de Levallois-Perret qui avait tout, mais vraiment tout, et puis qui a décidé petit à petit de se séparer de leurs propriétés, de leurs meubles, d'une partie de leurs bijoux. Je crois qu'ils ont gardé un bracelet électronique au pied, j'imagine que c'est pour le style. Voilà, il existe donc, on le verra, plusieurs types de minimalisme. Il y a le minimalisme d'habitation avec les tiny house. J'espère que je le prononce.
Tiny house,
c'est ça. Je prononce bien. Je découvre tranquillement. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément pour moi parce que j'ai une bonne carrure. Julia Vignali, j'ai regardé. Alors c'est la taille de son dressing,
mais ça posera problème.
Mais sinon, ça peut le faire. Une maison justement sur roulette pour pouvoir se déplacer. Il faut un bon frein à main. Il faut pas se garer n'importe où, mais ça peut être pas mal. Il y a le minimalisme intellectuel. Je sais pas si ça vous parle.
Oui. Non mais allô quoi, t'as une fille, t'as pas de shampoing, allô.
C'est la télé-réalité, donc c'est aussi une forme de minimalisme. Il y a celui, on parlait donc vestimentaire. Là, on a des bonnes adresses, on vous les donnera. Ça se passe essentiellement vers chez vous, du côté du Cap d'Agde, Mélanie.
Oui, c'est vrai.
Et puis le minimalisme dans le travail, c'est ce que je vais faire aujourd'hui en arrêtant cette chronique. Maintenant, certains ils verront une sorte de feignantisme, mais sachez que c'est du minimalisme.
Bon, c'était petit mais mignon,
oui,
c'était super. Merci beaucoup Clément Lanoux. On va à présent entrer plus en détail dans notre thématique du jour grâce à nos invités. En studio avec nous, il y a déjà Jonathan Benabed. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur et l'auteur du livre Tiny House Living Stone aux éditions Erol. À côté de vous, je présente Lucie Lebas. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes consultante en minimalisme. Lucie, qu'est-ce que c'est justement le minimalisme? Alors c'est pas forcément Tintin, quoique. Est-ce que vous nous expliquez le principe?
Le minimalisme, c'est juste s'entourer de ce qui nous est utile.
Ah oui? C'est la définition.
Ce dont on a envie de se servir.
Bah, regardez, toi, vous et moi, Mélanie.
Oui.
Bon, je vais y aller.
Clément. Oh non. Ça vient d'où alors le minimalisme? C'est apparu quand, ce mode de vie?
Le minimalisme, en fait, c'est très très vieux. Vous pouvez le retrouver que ce soit dans les religions. Les moines ont très peu d'objets, 9 objets. Que ce soit dans des vœux de pauvreté. Vous avez aussi des personnes qui ont toujours voulu faire avec le moins possible. Donc, tout simplement se tourner, tourner le dos aux sociétés de consommation, au shopping, aux publicités. Donc, finalement, ce n'est pas vraiment une tendance. Hein, c'est quelque chose que nos ancêtres, nos parents et nous-mêmes pouvons faire sans regarder les réseaux sociaux et le faire tout simplement naturellement. Le minimalisme, en fait, c'est vivre naturellement sans regarder la publicité. C'est et vivre en tant qu'être
humain. C'est ce que vous faites, vous, Lucie, vous vous êtes débarrassée de beaucoup de choses ?
Énormément. Alors, autant que faire se peut, parce que du coup, je ne suis pas complètement déconnectée de la réalité ou des réseaux sociaux. J'ai un smartphone, je travaille grâce à mon ordinateur. Donc, je suis malheureusement, je subis des messages de publicité et forcément des envies qui peuvent venir.
Mais la taille de votre dressing, par exemple, puisqu'on en parle avec Clément.
J'ai 40 vêtements, sous-vêtements compris, pour toute l'année, toutes les saisons.
Vous êtes bluffée, Julia, là, hein ?
Oui, mais j'aime beaucoup l'idée, moi. Je trouve qu'on est très encombré par les objets. Donc,
ça s'appelle une garde-robe capsule.
Ah, d'accord.
Donc, faire le maximum de tenues avec le minimum de vêtements.
Ah oui, vous les combinez différemment.
Exactement.
En fonction des saisons, c'est etc. Ça. Alors, Jonathan Benabed, vous vivez carrément dans une tiny house, une mini maison de 15 mètres carrés, avec votre compagne avec qui vous avez écrit ce livre, hein, donc Tiny House Livingstone. Livingstone, c'est le nom de votre maison qui raconte, je crois, justement, ce mode de vie particulier. Pourquoi vous avez fait ce choix ?
Le choix de la maison ?
Oui.
Oui, pas de la campagne.
Je pensais du nom.
Les deux d'ailleurs. Ça m'a été imposé, le nom nous vient sur Livingstone, vous allez nous dire aussi.
Ouais, je dirais. Le choix de changement de vie, ça s'est fait parce qu'on avait envie de recentrer un peu notre vie sur le voyage à la base, d'où le fait que cette maison ait des roues. L'envie de revenir à quelque chose de peut-être un peu plus essentiel, de faire mieux avec moi, en tout cas dans notre manière de faire. Et après, ça, c'était un peu plus personnel. C'était l'envie de, à la fois, construire une maison et en même temps partir en voyage. Et le mix des deux, c'était les tiny houses. Donc, il y avait l'écologie aussi, bien sûr, derrière tout ça. Reprendre un peu la main sur tout ce qui est consommation, apprendre à vivre sur des réserves, à être bien dans peu.
Mais c'est comme une petite caravane, en fait.
C'est vrai qu'on pourrait associer ça à une petite caravane, sauf que c'est en bois.
Ouais.
Donc, c'est le même principe. On a un confort quand même qui est un peu meilleur. Mm-hmm. Et l'aspect après qui était aussi intéressant, c'est le côté budgétaire. Où avec très peu, on est chez soi. Quoi.
Clément ?
Je ne connais pas du tout les réglementations, mais on peut aller où on veut. Vous pouvez dormir où vous voulez, où il y a des endroits réservés à ces maisons.
C'est comme les voitures, en fait.
D'accord.
C'est soumis au même code. Donc, si c'est interdit à la voiture, c'est interdit à la tiny house. Mais globalement, on a été avec où on voulait.
Et pourquoi alors Livingstone quand même ? Elle s'appelle comme ça, votre maison, ça vient d'où ça ?
Ouais, ça vient du roman Jonathan Livingstone, le goéland. Mm-hmm. Donc moi, mes parents m'ont appelé Jonathan à cause de ce livre-là que j'ai lu et relu étant petit. Donc ça m'a vachement imprégné. Et quand il a fallu trouver le nom pour la maison... c'est revenu, quoi.
Merci à vous deux ce matin dans Bienfait pour vous. On tente de comprendre ce qu'est concrètement la vie en version minimaliste. Et si justement, si vous tendez vers cela, restez bien avec nous sur Europe 1 car on va vous donner des astuces, des conseils pour vous lancer, pour vous alléger au quotidien du trop-plein de tout. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
Bienfait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good, Mieux Vivre. Ce matin, on s'interroge autour de cette question. Pourriez-vous vous alléger un peu et devenir minimaliste ? On en parle notamment avec Lucie Lebas, consultante en minimalisme, et Jonathan Benabed, réalisateur et l'auteur du livre Tiny House Livingstone aux éditions Erol. Alors Jonathan, on a parlé un peu de l'histoire du minimalisme juste avant, mais à partir de quand sont apparues justement ces petites maisons dont vous vivez dans l'une d'entre elles, hein, ces tiny houses ? Je crois que d'ailleurs qu'il y a eu un documentaire sur Netflix sur le sujet aussi.
Il y en a eu pas mal. Il y a aussi beaucoup de documentaires sur le minimalisme. Mais en France, je dirais plutôt même aux États-Unis, en Amérique du Nord, ça a apparu en 2008. Mais c'est bien plus vieux que ça, parce que les premières photos remontent début 1900.
Ah oui,
donc,
carrément.
L'idée est vieille. Hein. On n'invente rien.
C'est fou, et il y a beaucoup de tiny house en France actuellement ?
Alors c'est dur de les chiffrer, parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui auto-construisent. Il y a beaucoup de gens qui se cachent, parce que même si c'est reconnu par la réglementation, c'est pas toujours bien vu.
Ah oui, pourquoi ? Donc, ça fait genre je campe.
Connu. Ouais, c'est pas connu, ça sort des cases, quoi.
On vous appelle des tinistes, c'est
ça ? On nous appelle des tinistes.
Ah, des tinistes.
Ça varie, je pense, d'une région à l'autre. Et donc, c'est difficile de chiffrer.
Mais ça prend de l'ampleur, ça, on en est certain. Il y en a de plus en plus. Moi, j'ai vu des reportages à la télé avec des villages de tiny house, enfin des endroits où il y en a plusieurs. Vous vivez seul, vous, où il y a d'autres tiny à côté de la vôtre ?
C'est en prévision d'être plusieurs.
Ah oui, carrément ?
Ouais. On a une mairie très sympa, donc...
Et ah oui, d'accord. Donc comme la mairie est cool, vous pouvez peut-être dire à d'autres tinistes de venir vous rejoindre.
Ça serait l'idée.
Ouais. Génial. Hein.
Ouais. Est-ce que vous pouvez nous la décrire justement, votre petite maison, pour nos auditeurs ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a combien de pièces ? C'est petit, mais je crois qu'il y a quand même tout le confort moderne dedans. Hein. Vous ne campez pas du tout. Hein.
Non, on n'est pas en campement. Elle est quand même assez petite, même pour l'univers des tiny house, parce que la nôtre fait 8 mètres carrés au rez-de-chaussée.
Ah oui.
C'est toilette, hein. Faut s'imaginer ça. Et la chambre fait 4 mètres carrés. Au-dessus, en mezzanine, et on a une terrasse de 3 mètres carrés. Donc le tout fait 15, mais cuisine, salle de bain et salon, ouais. Ça fait 8 mètres carrés. Et on a un petit coffre de rangement pour mettre les vélos, tout ça.
Vous avez dit alors la
ça,
taille de toilette, mais on est d'accord qu'il y a aussi des toilettes dans la tiny, du coup.
Évidemment, ouais.
C'est ça.
Il ouais, y a tout, il hein. y a même un petit four, la douche. La seule chose qu'on n'a pas, qu'on peut retrouver dans les appartements habituels, c'est la vaisselle et lave-linge qu'on mm-hmm. mutualise. Mm. Donc en voyage, on n'avait pas besoin de ça. Donc,
et vous vivez avec votre compagne, c'est ouais, bien ça. Vous êtes deux. Ouais. C'est pas trop petit pour un couple. Avec les alors, enfants, par exemple, ça serait possible.
C'est vrai qu'elle a été pensée pour moi tout seul à la base, parce qu'on se connaissait pas. Donc il a fallu s'adapter. Mais en fait, je me rends compte en regardant notre vie d'avant et puis même d'autres gens qu'on connaît, des amis, qu'en fait, c'est toujours trop petit. On a toujours besoin d'une pièce en plus, on a toujours besoin d'un peu plus. Donc les problèmes sont les mêmes. C'est juste quel état d'esprit on a derrière. Est-ce qu'en fait, on arrive à s'en contenter? Et donc, ça arrive qu'on se gêne, surtout au début, il tout fallait apprendre.
Et puis en hiver, fait, non va, hein, en hiver, c'est pas plus compliqué qu'en été.
C'est plus chaleureux, moi, je dirais. Non, peut-être en hiver.
Mais non, mais on peut pas sortir en hiver.
L'hiver en tanière, c'est pas si facile parce qu'il y a des problèmes d'humidité. Ouais. Donc, c'est les gros problèmes des petits espaces. Ouais. En dehors de ça, ça se gère très bien, on s'habitue en fait.
Et si un jour vous avez des enfants, vous imaginez vivre en tiny house?
Ouais, c'est tout à fait possible, il y a plein de familles qui le font, mm-hmm. Il y a même des gens qui ont des enfants sur des bateaux, alors ils peuvent même pas les envoyer dans le jardin pour aller les calmer.
Mais on peut en prendre des plus grandes dans ces cas-là?
Ouais, c'est vrai que la nôtre est toute petite, ça fait donc 15 mètres, mais en moyenne ça peut faire 20, et il existe même aussi des tiny house modulables, où on les connecte entre elles avec une terrasse par exemple.
Et donc on peut avoir une tiny house super. De 200 mètres carrés quoi.
Ouais, c'est plus une tiny house. Mais à 40, pourquoi pas?
Ah, jusqu'à 40.
Ça passe, ouais. Ouais,
alors Lucie Lebas, je ne crois pas que vous viviez en tiny house, non. Vous, mais est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez, que vous aimeriez tenter un jour? Comment vous voyez cette façon d'habiter justement dans du petit-petit?
Je comprends parfaitement et je ressens que c'est par rapport au chemin sur le minimalisme, là où nous sommes, qu'on arrive ou pas à la tiny ou on préfère avoir une maison en dur. Par exemple, j'ai commencé le minimalisme en ayant beaucoup, beaucoup de choses, contrairement à Jonathan. Et du coup, peut-être que je vais arriver à la tiny un jour parce que je...
Vous désencombrez.
Je désencombre petit à petit, donc peut-être que la fin du voyage sera en tiny.
Bon, on parlait de votre dressing tout à l'heure, il paraît que vous étiez accro au shopping.
Oui.
Depuis l'année dernière, vous avez tout plaqué, vous vous êtes installé à la campagne. Ça a été quoi le moteur principal de ce changement de vie?
Ça a été une forte dépression. Avec le regard des autres qui était très très important pour moi. Et finalement, en travaillant sur moi, en faisant beaucoup de développement personnel, je me suis rendu compte que plus j'avais confiance en moi, plus j'avais une estime personnelle et moins j'avais besoin de plaire et du coup d'acheter. Moi, j'avais besoin de suivre les tendances et puis d'aller dans telle ou telle soirée. Et donc, me retrouver avec moi-même et m'aimer un peu plus, j'ai eu moins besoin de consommer. Donc c'est comme ça que ça s'est déclenché.
Et désormais, vous êtes même consultante en minimalisme. Mmh. C'est quoi comme métier? Expliquez-nous votre quotidien professionnel, on va dire.
Alors j'accompagne mes clientes, parce que j'accompagne les femmes en priorité.
Pourquoi?
Parce que c'est
peut-être le besoin le plus de se désencombrer, non?
C'est alors, possible. Pas forcément. J'avais un ancien métier où j'étais coach en séduction, je coachais que les hommes. Et là, dans ce métier-là, j'accompagne les femmes dans une évolution... professionnel et spirituel aussi. Du coup, ça consiste en quoi? Ça consiste à chercher le besoin de mes clientes, le style de vie dont elles ont vraiment envie, leur essence, et pas celui qu'on peut leur imposer ou celui qu'elles voient à la télé.
Donc c'est large, hein, c'est pas que leur dressing, vous n'allez pas vider leur dressing, c'est beaucoup plus large.
Si, je vais vider leur dressing. C'est une des pièces les plus fastidieuses avec la cuisine, donc on commence pas forcément par le dressing.
Mais c'est génial, je crois que j'aimerais bien, moi, ça.
Je pense que je viens penser à une reconversion.
Ah ouais, vous fonctionnez comment, par pièce?
Exactement. Alors, ça dépend en fait, de la cellule familiale. Si vous avez une famille ou un couple, effectivement, on va commencer peut-être par le dressing, où là, finalement, personne s'occupe du dressing de la maman ou de la femme dans un couple hétérosexuel. Dans ces cas-là, c'est la pièce qui va être le plus visible et ça va être la pièce test. Donc forcément, quand on va voir que le dressing il est rangé, après la famille va vouloir faire du mimétisme et se dire « Ah mais c'est trop bien, on se sent vraiment mieux là, donc on va pouvoir continuer. »
Donc vous faites du rangement?
Ça va plus que du rangement parce que là, en fait...
Elle range la tête aussi.
Je range la tête et en fait, la sensation de se séparer est très compliquée pour beaucoup de personnes. Le dépouillement n'est pas inné. Surtout dans nos sociétés où on a besoin de posséder. Donc ça va beaucoup plus loin que le rangement.
Et vous faites quoi des choses qui sont laissées de côté?
Alors moi j'ai une valeur très importante environnementale. Dans ces cas-là, ça va être que du recyclage, puisqu'aujourd'hui aucun déchet ne va normalement dans les ordures ménagères. Tout peut être soit recyclé ou en tout cas aller à la déchetterie. Dernière solution, on peut donner à des associations, on peut faire un après-midi troc avec ses copines, on peut vendre sur différents sites d'occasion. Il y a énormément de solutions, ou réparer et offrir.
Bon, donc le minimalisme, il y a quand même une forte propension à l'écologie quand même. Vous, c'est ça Jonathan aussi qui a motivé votre façon de vivre. L'écologie, c'est très important. Ça s'inscrit complètement dans votre démarche.
Ouais, complètement.
C'est aussi pour ça que vous êtes devenu minimaliste. C'est pas juste pour que ça soit bien rangé, rester chez vous et ne pas être encombré dans votre tête.
La notion de charge mentale, elle est importante là-dedans. C'est vrai que moi, quand j'enlève des trucs, je me sens apaisé. Mais je l'étais avant même d'être un peu attentif à l'écologie. Comme je disais tout à l'heure, c'était un peu un truc auquel j'avais juste pas pensé.
Alors, certains minimalistes parlent même de faire du tri dans leurs relations sociales. Est-ce que ça vous parle? Parce que j'imagine que vous ne cultivez pas les 3000 amis Facebook que vous avez peut-être encore tous les deux, non?
Comme Lucie, okay. Moi du coup j'ai plus Facebook, j'ai Messenger pour pouvoir parler avec certaines personnes. Sur Instagram, sur mon compte, je suis 5 comptes et encore des fois c'est un peu plus, un peu moins. Mais je fais en sorte en fait que les personnes et mon entourage me soient positifs. Dès qu'il y a quelque chose de toxique, j'en parle et ça change et ça évolue, ou sinon je dis au revoir. C'était très difficile au début. Parce qu'on a l'impression d'abandonner des gens ou être rejeté. Donc, est-ce que je vais finir seule, en fait, la finalité?
Et vous conseillez ça en tant que coach, de faire le tri dans ses amis aussi pour s'alléger?
Carrément, souvent, c'est la base, en fait. Quand on a énormément, c'est parce qu'il y a quelque chose de toxique dans notre réseau social. Et réseau social, je ne veux pas dire les applications, un réseau social familial ou amical.
Jonathan, vous avez une petite maison, est-ce que vous avez un petit groupe d'amis aussi?
Non, au contraire, en fait, je me rends compte que j'ai encore plus de potes que quand j'étais. Donc, c'est tout l'inverse. Je ne pourrais pas les faire rentrer.
Heureusement, on peut aller à l'extérieur aussi, ouais, de la Tiny. J'imagine que vous avez un petit salon de jardin peut-être, vous pouvez être dehors.
Puis avec le voyage, on a rencontré plein de gens. Donc
alors vous dites le voyage, parce qu'en fait vous bougez, vous ne restez pas au même endroit avec votre Tiny House. Je crois qu'elle est mobile, votre maison, elle est accrochée à votre voiture comme une remorque.
C'est ça.
Et pourquoi vous bougez?
Parce que c'est cool.
Ouais. Mais si vous vouliez rester à un endroit,
ça le fait depuis le deuxième confinement, on n'a pas bougé. On se cherche à nouveau. Et donc, on a bougé pendant bien 2 ans. Donc, c'était super. On était parti pour faire un long, long voyage. Et puis, finalement, on a recentré sur autre chose. Et c'était tout le but d'avoir une maison nomade.
C'est génial.
J'imagine quand on a une maison nomade, il faut être un peu bricoleur, non? Parce que comme dans toute maison, ça doit casser, il doit falloir réparer. Vous êtes le roi de la bricole?
Ouais, du fait qu'on a auto-construit, oui. Maintenant, on sait se débrouiller, mais c'est pas essentiel.
Et votre amie, elle supporte bien ce mode de vie?
Ouais, je pense, sinon elle serait plus là.
Eh bien, merci à tous les deux. On va poursuivre ce coup de projecteur ce matin sur le minimalisme. Est-ce que ça vous tenterait d'ailleurs, vous qui nous écoutez, de vivre avec moins, de faire un peu le vide dans tous les aspects de votre vie quotidienne? On vous explique ce matin comment faire pour vous alléger, même progressivement. Donc restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Pourriez-vous devenir minimaliste? On fait le tour de cette question avec nos deux invités. Toujours avec nous, Lucie Lebas, consultante en minimalisme, et Jonathan Benabed, réalisateur et l'auteur du livre Tiny House Living Stones aux éditions Erol. Alors, Jonathan Benabed, le sous-titre de votre... c'est pas un film, c'est un livre. 15 mètres carrés pour voir plus grand. C'est un peu contradictoire. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là?
C'était l'aspect projet, en fait, voir plus grand à la fois dans le changement de vie et aussi dans le fait de voyager avec une maison. C'était quelque chose qui était assez grand et assez fou comme projet. Mais on a hésité avec 15 mètres carrés pour plus de liberté, parce qu'en fait, c'était le thème profond et ce que je trouve qui est le plus fort chez les Tiny House, c'est l'aspect liberté que ça nous offre dans la vie de tous les jours.
Alors, vous avez quitté votre appart parisien pour emménager dans votre tiny, mais quand on doit vivre à deux dans une maison de 15 mètres carrés, j'imagine que même si vous n'aviez pas beaucoup de choses, vous avez dit que vous voyagiez déjà assez léger, vous avez dû faire un tri, j'imagine, vous n'avez pas pu garder tout. Comment vous avez procédé pour trier et choisir ce qui allait arriver avec vous dans cette tiny?
En fait, ce n'est pas tant l'espace, c'est le poids qui nous a contraints, parce qu'on est limité à 3,5 tonnes. Et 3,5 tonnes d'affaires quand on a déjà 2,5 tonnes de bois. Pour faire
ça fait vite.
Va très vite. Ouais. Et donc là, ça a été compliqué. Et faire le tri, ça a été très bien jusqu'à la toute fin. Et à toute fin, enlever les 100 derniers kilos, vous savez, les 80-20, les 20 derniers pourcents, ça a été compliqué. Puis bon, en fait, 2 semaines après être parti, on avait complètement oublié ce qu'on avait laissé derrière nous. Le voyage...
Qu'est-ce que vous avez laissé, par exemple, je me demande?
La machine à laver, par exemple. Donc c'était un truc compliqué. Les livres pour Yuna, c'était vraiment compliqué. Moi, c'était un peu de la déco, remplacer des jolis pots en verre qu'on avait bien choisis pour des trucs en plastique parce que ça pèse pas
lourd.
C'est complètement l'inverse de la démarche et on était un peu dingue, mais il fallait passer par là.
Lucie, vous aussi, vous vous êtes débarrassée d'une partie de vos possessions. Ça vous a permis de vous reconnecter à des choses plus essentielles, mais comme quoi, alors, justement, par exemple?
Par exemple, je suis toujours passionnée de décoration, mais j'avais beaucoup, beaucoup de déco qui venait de magasins qu'on connaît tous. Et aujourd'hui, la décoration, je l'ai remplacée par les plantes. Mmh. Et donc, quelque chose d'hyper essentiel pour moi aujourd'hui, c'est les plantes.
Et de vivant. Soit,
et de vivant, ouais, complètement. Donc là, c'est des tableaux que je regarde tous les jours, en fait. Elles me font des nouvelles feuilles, etc. Mmh. Et je suis super contente.
Et ça ne vous manque pas, justement, tout ce dont vous avez dû vous débarrasser? Est-ce que vous y pensez parfois? Est-ce que ça vous manque?
Jamais. Mmh. Parce que je pense que j'ai réussi à faire le vide pour me remplir d'autres choses, d'expériences et des choses que j'aime vraiment et qui m'épanouit profondément. Contrairement à des choses dont j'oublie très très vite, comme des trucs de déco.
Donc finalement, tout ce dont vous avez dû vous débarrasser, tous les deux, vous direz, j'ai pas l'impression que ça a été vécu comme un sacrifice. Hein. Nous, on a l'impression, quand on n'est pas minimaliste, que ça demande de faire des choix incroyables. Mais non, pas de sacrifice, Lucie ?
Non, aucun sacrifice. Parce que c'était un choix. C'est comme chaque changement, en fait. Quand vous voulez perdre du poids, vous dites, voilà, il faut que je passe à l'action. Mais tant que vous n'avez pas vraiment envie de le faire, vous pouvez faire tous les régimes du monde, ça ne marchera pas.
Et puis, on n'est pas obligé de le faire de genre la face A, la face B d'un coup. On peut y aller progressivement, non aussi, c'est ça, le but de la démarche, peut-être.
Un tiroir par un tiroir. Ne serait-ce que là, votre téléphone, vous le prenez, vous enlevez tous les spams, les mails que vous voulez plus, les newsletters auxquels vous êtes inscrite, vous commencez le minimalisme. Supprimez des comptes sur Instagram, vous commencez le minimalisme.
Ah, c'est génial. Mais moi, je crois que je suis un peu minimaliste. Je fais déjà ça. J'adore me débarrasser des choses et des gens aussi. Est-ce que le minimalisme, il peut aussi s'inscrire dans la vie professionnelle? Parce que je n'ai pas l'impression que le travailler plus pour gagner plus, ce soit forcément votre philosophie de vie. Jonathan ?
Ah non, à fond, non, c'est même l'inverse. C'est plus travailler moins pour vivre mieux. Ouais, ça s'applique vachement. Ça s'applique vachement à la fois dans le matériel, le choix du matériel, mais aussi dans le temps. Maintenant, moi, je suis à tiers-temps et ça me suffit largement. J'ai tellement réduit toutes mes dépenses en vivant comme ça que du coup, je peux travailler trois fois moins et quand même mettre plus de côté qu'à l'époque où j'avais mon appartement à Paris.
Vous n'êtes pas ric-rac, comme on dit ?
Non, pas du tout.
Lucie ?
Bah non, on ne dépense plus.
Niveau professionnel, pareil, vous êtes d'accord avec
moi ? Alors, moi, ce n'est pas travailler moins. C'est parce que du coup, ma vie professionnelle, c'est ma passion. Par contre, c'était très important, c'était les valeurs. Donc, j'ai des grosses valeurs de justice, de liberté, d'honnêteté dans le salariat, ce que je ne retrouvais pas, ce qui est très difficile. Du coup, j'ai un métier en fait, que je me suis créé complètement sur mesure, qui n'existait pas, et dans lequel j'ai des valeurs aussi environnementales, écologiques, humaines, que je peux développer et ressentir.
Lucie, sur votre site de consulting en minimalisme, vous écrivez que quand on fait le vide, tout devient plus clair. Avoir trop de vêtements, d'objets, est-ce que ça serait comme une pollution de notre intérieur ?
Oui, c'est complètement une pollution. Quand vous êtes dans un endroit qui est complètement encombré, votre cerveau il est hyper stimulé. Et le cerveau est monotâche, il n'est pas multitâche. Du coup, enlever des objets, c'est vous détendre, c'est vous ressourcer. Parfois, vous pouvez avoir des sensations de fatigue physique en étant chez vous. C'est juste parce qu'il y a trop de choses et que votre cerveau, il est...
Et comment vous faites quand vous êtes invité chez des gens et que c'est un peu encombré ?
Je vais passer pour quelqu'un de radical, mais c'est pas grave. Il y a des endroits où je veux pas aller.
Ah oui, carrément. Vous nous imposez plus ce genre de choses aussi.
Ah, mais je m'impose rien du tout. Ouais. Alors là, c'est
Jonathan, on a une question pour vous au 3921, notre répondeur. On a Samira qui vous demande comment les proches, vos proches et votre famille ont accepté votre minimalisme et notamment le tri dans les affaires qui peut-être comptait pour eux, pour les autres, les cadeaux qu'on vous avait offerts, les souvenirs de famille.
Oui.
Voilà, comment ça a été pris dans votre entourage ?
Ouais, l'annonce, ça a été très bien. Tout le monde a bien suivi, donc ça, j'étais très content, très chanceux. Mais alors après, pour les cadeaux, effectivement, ça a été toute une démarche de faire comprendre, bon, la déco, c'est mort, on arrête. Les paquets cadeaux, enfin l'emballage aussi, parce qu'on essaie de réduire nos déchets. Enfin bon, ça a été un petit apprentissage tranquille. Et puis, ça
se
fait
avec
la discussion. Ouais. Bah, ils nous offrent plus rien.
c'est réglé. Alors, on a compris que si on voulait s'y mettre au minimalisme, c'est pas mal de commencer par son dressing, peut-être. Et comment on s'y prend exactement ?
Moi, je veux un dressing capsule aussi.
Ouais.
Comment je m'y prends ?
Est-ce que comme Marie Kondo, on garde que ce qui nous laisse de nous créer de la joie ? Enfin, ou est-ce qu'on parle à ses vêtements ?
Ça dépend où vous en êtes aujourd'hui. Ça dépend de votre vie professionnelle. Ça dépend si vous êtes prête aussi à avoir vraiment un gap très très gros dans votre vie. Si vous voulez commencer à supprimer vos vêtements de votre dressing, bah, simplement tout ce qui est usé, ce que vous ne portez pas depuis 6 mois, 1 an, dans lequel vous ne reconnaissez pas, les au cas où.
Oui, donc, si j'en ai un paquet d'occasions.
Voilà, et j'allais finir. Si jamais vous avez des vêtements, vous allez perdre du poids.
Oui.
Quand vous allez perdre ce poids-là, parce que mes clientes, c'est un peu le sujet numéro un, vous n'allez pas vouloir garder ces vêtements et mettre ces vêtements, vous allez vouloir autre chose, parce que c'est une renaissance, on va dire. Donc tout ça, déjà, ça peut partir. C'est même pas des grosses questions, en fait.
Lucie, vous dites aussi que tout ce que nous possédons prend de la place dans notre esprit et que donc devenir minimaliste, ça contribue à calmer notre anxiété. Vous pouvez nous expliquer comment ça agit sur ce niveau d'anxiété, justement ?
On parle beaucoup de charge mentale aujourd'hui. Charge mentale de quotidien, de métier, d'enfant. Finalement, ce que vous possédez, ce que vous avez dans votre sac à main aujourd'hui, que ce soit le téléphone portable, le briquet ou le stylo, tout est dans votre tête. Chaque achat que vous faites, c'est un souvenir et c'est inscrit dans votre mémoire. Donc finalement, retirer tout ça, c'est faire de la place pour autre chose.
C'est
mais,
clair. Hein.
Oui, mais j'étais en train de me poser la question, vous gardez quand même des souvenirs vous,
des photos, vous, ouais. Des choses comme ça, oui.
Avant, oui. Aujourd'hui, non.
Ah, et vous avez tout dans votre tête?
Oui, j'ai tout dans... Après, je suis quelqu'un de littéraire, donc je pense que je pars vite dans des souvenirs. C'est ma personnalité. Il y a certaines personnes qui ont besoin de garder certains souvenirs. Et dans ces cas-là, il y a un reportage The Minimalist sur Netflix où un des deux minimalistes du reportage garde qu'une photo de sa maman, alors qu'elle lui avait légué tout ce qu'il y avait dans la maison.
C'est l'étape que je n'arriverai pas à franchir, je crois.
Ouais. Surtout avec les enfants,
Mélanie. Les photos, mais même les photos de famille, d'enfance.
Mais,
enfin, je pourrais
mais la question,
jamais
c'est qu'avec vos deux enfants, comment vous feriez pour être minimaliste? C'est une vraie question.
Mais l'avantage avec les photos d'aujourd'hui, moi je parle des vieux albums photos que j'ai de mon enfance. Hein, justement, ceux-là, je ne peux pas m'en séparer, c'est impossible. Par contre, mes enfants, aujourd'hui, tout est en digital. Oui. Ça passe nulle part. En
mais
fait,
moi,
ça passe dans le cloud.
Des jouets de vos enfants, comment on fait?
Non, ça, je trie pour le coup. Je donne beaucoup.
Bah, évidemment, c'est beaucoup de pédagogie et il faut avoir le temps. Si vous avez un métier, vous faites 60 heures par semaine et que vous avez des enfants, c'est très compliqué. Je vais être très terre à terre. Ça demande de l'explication, de la pédagogie. Mmh. Et soit il vient de naître et dans ces cas-là, c'est plus facile. Mais si vous avez déjà des enfants qui sont plus âgés et leur imposer le minimalisme, vous allez pouvoir lire un petit peu et faire un peu de thérapie.
Jonathan, vous avez quitté Paris, on l'a déjà dit, pour être notamment plus proche de la nature, avec cette maison qui se balade justement. Est-ce que vous pensez qu'on peut être minimaliste quand on vit dans une grande ville, à Paris par exemple, ou à Bordeaux? Est-ce que c'est possible?
Bah, tout à fait, ouais. C'est vraiment une question de volonté ou d'élan. Je l'ai été avant d'être dans la petite maison, mais il y a plein de manières de l'être chez soi, comme tu viens de donner un petit peu les indices. Et je trouve que la meilleure méthode, c'est peut-être de commencer par ce qui nous satisfait le plus, avec le moins d'efforts. Donc, c'est pas compliqué à faire. Et tout de suite, on a un retour qui est gratifiant. Et petit à petit, on commence à mettre les doigts dedans et aller un peu plus loin comme ça. Pas besoin de se presser, quoi.
Bon, on peut tous tendre vers ça. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été à nos côtés ce matin. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je pense qu'on a une meilleure idée maintenant des bienfaits de ce mode de vie minimaliste.
Eh bien, merci à vous deux. On va passer à présent à notre séquence tendance. Il y aura d'abord Séverine Pierron qui va nous détailler les risques d'un truc à la mode, le doom scrolling, faire défiler de façon frénétique nos fils d'actu sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est pas du tout pour nos invités. Ça doit pas être très minimaliste, hein, tout ça. Et puis avec le chef Abdel Alaoui, on va revenir justement à l'essentiel pour nos papilles. Il va nous dévoiler ses secrets de chef pour bien choisir ou faire nos confitures. Tout ça, c'est dans un instant et c'est sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bienfait pour vous. Et Julia termine sa nuit, l'émission qui fait du bien. Julia, ça va vous remettre en forme là. On va attaquer notre séquence tendance. Et autour de la table, il y a déjà le chef Abdel Alaoui. Bonjour Abdel.
Bonjour Abdel. Bonjour les filles, comment
allez-vous? Très bien. On dit souvent que la culture, c'est comme la confiture. Plus on y goûte, plus on en reprend. Mais avec vous, on va laisser de côté la culture.
On va s'intéresser à la confiture, ben voilà, avec teneur en fruits, le sucre qu'on met dedans. Là, on est en pleine saison, puis c'est l'été, donc c'est agréable. Et c'est facile à faire les confitures, vous allez voir.
Génial, j'en ai hâte. Que vous nous donniez vos astuces. Restez avec nous, Abdel, parce qu'on va commencer par la chronique de Séverine Pierron. Bonjour Séverine.
Bonjour Séverine.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous allez nous expliquer pourquoi on passe des heures à regarder en boucle des contenus sans queue ni tête parfois sur les réseaux sociaux. Il paraît que c'est à cause de ce que l'on appelle le infinite scrolling. C'est là, j'ai bien dit. Hein.
Wow. Ouais, c'est ça,
vous
exactement.
Entendu, ouais. Infinite scrolling.
Ouais, pas mal.
Pas mal.
Alors oui, on le fait tous, hein, je vous rassure, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok, on zappe, on passe d'un contenu à un autre, d'un bref mouvement du pouce ou de l'index vers le haut, vous voyez ça, Anne,
hein? Scroll,
next,
scroll,
next. Scroll. Alors sur Instagram par exemple, vous regardez sûrement en boucle des Reels, vous avez ces courtes vidéos suggérées, ça existe aussi sur TikTok et bien sûr sur Facebook, ça s'appelle Facebook Watch, et la vidéo c'est le format qui marche le mieux comme ça. Alors les chats mignons, les bébés qui dansent, les quiches qui sortent du four, les tutos beauté.
Moi, j'aime les quiches.
Tout y passe.
Les bébés qui dansent, moi, c'est ce que je préfère.
Non, moi, je regarde que des recettes de cuisine, je crois.
Moi aussi.
Alors, c'est un puissant fond. Hein. C'est un peu comme si on était coincé devant une machine à sous à Las Vegas. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Et en fait, on ne sait jamais combien de temps on reste devant ces vidéos. Alors, ça peut varier de 5 minutes à 3 heures. Enfin, c'est comme une drogue.
Ouais, on est possédé par le truc. Quoi.
Comment ça se fait, à votre avis? Eh bien, c'est à cause d'une invention diabolique qu'on appelle donc le infinite scrolling.
Il faut m'expliquer. J'ai l'impression qu'il faut avoir fait anglais LV1 pour comprendre vos chroniques.
Ouais, je sais. Je parle beaucoup beaucoup anglais. Alors, le infinite scrolling, ou scroll infini en français.
Ah, vous comprenez mieux, là, voilà. Comme ça. Ouais.
Ça a été inventé, pardon, ça a été inventé par quelqu'un qui s'appelle Asa Raskin, un ingénieur, en 2006. En fait, c'était, 2006, c'est la préhistoire des réseaux sociaux. Hein. Scrolling, scroller en français, vous connaissez, ça veut dire faire défiler, comme ça, vers le bas. En gros, c'est une sorte de page web sans fin, si vous voulez, ça ne s'arrête jamais. Alors, avant, souvenez-vous, pour changer de page sur Internet, peut-être ici, vous êtes assez vieux pour vous en souvenir,
il fallait cliquer
sur un bouton en bas, il y avait marqué page suivante.
Ah ouais. Ou page précédente, page suivante.
Voilà, on tournait des petites pages comme
ça. Moi, je n'ai pas connu, je suis trop jeune.
Voilà, elle est trop jeune, Mélanie. Mais alors, donc ça, c'était avant les smartphones. Pour rappel, le premier iPhone, c'était en 2007 en France.
Oui. Pourquoi cette invention du scroll infini a tout changé dans notre navigation, Séverine, mais surtout dans notre rapport au temps sur Internet?
Parce qu'aujourd'hui, avec cette ergonomie du défilement vertical sans fin, vous restez captif des réseaux sociaux. Vous êtes comme happé, en fait. Et selon une étude récente, les Français passeraient 1h46 par jour sur les réseaux, soit une augmentation de 5 minutes par rapport à 2020. Bon, attention, c'est une moyenne, hein, parce qu'il y a des gens qui y passent beaucoup plus de temps, parfois plus de 3
combien
heures, comme moi, par exemple.
Ouais, pareil, je fais 1h30, 2h. De toute façon, toutes les semaines, on a un rapport.
Le rapport hebdomadaire qui fait un peu peur, on est d'accord. Alors, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention qui est au cœur des modèles économiques des plateformes numériques. En fait, c'est un peu comme le temps de cerveau disponible. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il avait été théorisé par Feu Étienne Moujotte à propos de la télé. En fait, quand vous êtes sur les réseaux, vous êtes disposé à recevoir de manière plus ou moins subliminale des messages publicitaires qui déclencheront des réflexes d'achat. Allez, hop, dans le panier. Alors, le cœur du réacteur, c'est encore et toujours l'algorithme de recommandation des réseaux.
Mais c'est un peu mystérieux, on n'y comprend rien, ce truc.
Alors, l'algorithme de recommandation des réseaux, c'est en effet le secret le mieux gardé des plateformes. C'est un peu leur boîte noire, si vous voulez. Alors, il faut comprendre que, si vous voulez, plus vous passez de temps sur un contenu d'un certain type, plus ce genre de contenu vous sera proposé. Donc, c'est un peu sans fin. Si ça marche aussi bien, c'est parce que votre cerveau va avoir l'impression d'être chimiquement récompensé à chaque fois que lui sera proposé un contenu jugé plaisant. Et ouais, c'est diabolique. Et pendant la pandémie, on a même vu apparaître une variante angoissée du scroll infini qu'on appelle le doom scrolling et qui consiste à enchaîner les contenus anxiogènes de type fin du monde, nouveaux variants flippants du Covid, etc. Enfin voilà.
On a tous subi ça, effectivement. Mais comment on fait alors pour se sortir? Parce que c'est ça, dans cette émission, ce qu'on veut, être utile à nos auditeurs et leur faire du bien. Comment on sort de ce truc-là et on arrête de perdre du temps tout le temps comme ça sur les réseaux?
Alors peut-être ne jamais commencer. Bon, non, je plaisante, bien sûr, c'est trop tard, on en est tous là. Alors déjà, peut-être en comprenant pourquoi l'algorithme pousse certains contenus, ça va vous aider à ne pas cliquer dessus. En gros, si vous voyez une vidéo de bébé qui danse, fuyez, sinon la prochaine fois vous en aurez 10 fois plus.
Les bébés qui dansent.
C'est, voilà, il faut essayer de...
C'est flippant, ça. Moi, je choisis mes potes avec, grâce aux algorithmes, en fait. Il suffit de regarder ce qu'ils regardent. Bon, si ils regardent la cuisine, je les garde.
Et il y a aussi le temps passé sur les vidéos, par exemple. Si vous faites évacuer la... Vous remontez la vidéo immédiatement comme ça.
On la jette, quoi, en fait.
Vous hop, vous la passez. Ce genre de vidéo vous ne sera pas reproposé. Si vous restez dessus, parce qu'en fait, l'algorithme calcule, si vous voulez, le temps passé et à partir de ça, il va vous reproposer des choses. Donc,
quand je regarde mon fil, j'ai l'impression que je suis quand même une très grosse gourmande. Il n'y a que des recettes de confiture ou de trucs comme ça, de nourriture.
Ça fait un peu peur quand vous regardez en fait les contenus qui vous sont suggérés, parce que c'est une espèce, si vous voulez, de coupe transversale de votre cerveau malade.
Julia, il y a quoi sur le vôtre? Attendez, comment... Et vous, il y a quoi, Abdel?
Moi, il y a un peu de cuisine, un peu de...
J'ai eu
un
peur,
peu
vous avez cuisine.
C'est bien.
Comment je sais? Il faut que j'aille où, Abdel, pour savoir? Julia, il y a quoi? Des massages?
Sur Instagram, sinon sur la petite loupe aussi, vous pouvez avoir des choses.
Non,
c'est pas... Attendez, ça. J'ai envie de savoir ce qu'on me propose.
La petite loupe.
Voilà.
Le cerveau est malade de quoi?
Des bébés.
Des bébés, tellement mignons.
Voilà, Julia passe trop de temps sur la vidéo.
Regardez,
de bébé.
Regardez celui-là, comme il est mignon.
Non, ça y est, c'est trop tard maintenant, Julia. Vous êtes allée sur la vidéo de bébé, vous allez en avoir 50 fois plus.
Génial.
Voilà, il faut essayer de se réguler, s'auto-réguler pour utiliser des temps de cerveau disponibles pour faire des choses un petit peu moins passives. Et voilà, éviter par exemple de scroller sans fin dans les transports en commun. Ça, déjà, c'est une bonne base.
Moi, puis Julia, vous avez qu'à faire un vrai bébé et puis c'est bon, hein, c'est réglé.
À 46 ans, je ne sais pas s'il va être Jojo. Hein. Je mets ça sur les réseaux sociaux.
J'ai regardé la vidéo de votre bébé mignon.
C'est affreux. Merci Séverine pour cette chronique. Passons maintenant à un besoin primaire. Se régaler avec de bonnes choses, comme de bonnes confitures. N'est-ce pas, Abdel Alaoui?
Oui, les filles. Alors, franchement, il n'y a rien de mieux qu'une bonne confiture ou gelée de fruits pour le petit déjeuner. Déposée, étalée sur un bon pain de campagne grillé ou une tranche de brioche vendéenne. Alors, évidemment, avec du beurre salé. Vous aimez le beurre salé?
Tout à fait.
Non, bah, comme ça, avec la confiture. Ou pourquoi pas en plein après-midi pour le goûter, ou même dans un dessert un peu original, on va farcir nos muffins de confiture. Ma mère me disait toujours, c'est pas dans les vieux pots qu'on fera la meilleure harissa, par contre c'est dans les vieux pots qu'on fera la meilleure confiture. Elle avait raison. La confiture, c'est des plaisirs, des saveurs, des parfums d'antan. Et elle est l'art de conserver par le sucre les fruits, les légumes, les tiges, les racines, les feuilles ou fleurs même, que l'on fait cuire pour les amener à un degré de déshydratation suffisant pour la conservation. Parce que c'est le sucre qui va conserver tout
Abdel,
ça.
J'ai l'impression que ces pots-là que vous nous avez amenés sont déjà bien entamés. Ouais, j'ai l'impression que vous aimez ça, la confiture.
Je me suis régalé.
Il y a quoi dedans alors?
La marque, elle est ouf. Alors attention, n'est pas confiture qui veut. Il faut respecter certaines lois pour indiquer le mot confiture. Vous le saviez ça?
Non.
Il y a des lois
non.
quand même. Alors sur l'étiquette, le produit doit être obtenu en cuisant jusqu'à une consistance gélifiée, un mélange de sucre, de fruits et d'eau, et contenir un minimum de 55% D'accord. de sucre, 35% de fruits pour 100 grammes de produit. Après, il y a les confitures allégées.
Moi, j'aime pas ça.
Ah, vous aimez pas ça?
Non.
C'est hyper bon, on dirait presque une compote, on les mange comme ça à la cuillère.
Moi, je veux qu'il y ait du sucre. Moi.
Que du sucre. Alors là, il y a 42% à 45% de sucre.
Ça va, il y en a quand même, c'est allégé un peu. Quoi.
Ouais, en revanche, il y a plus de fruits, il y a 50 grammes de fruits pour 100 grammes. Les confitures, elles comportent quelques ingrédients. Il y a le sucre, il y a les fruits, il y a la pectine et l'acide citrique. Alors le sucre sert au goût et à la conservation de la confiture. La pectine sert à donner la texture comme ça gélatineuse et tartinable sur le pain ou sur la brioche avec le bon beurre salé. Et le fruit contribue évidemment aux arômes, au goût. Quant à l'acide citrique, lui, il va conserver, il va apporter un petit goût aussi acide à cette confiture.
Et comment on choisit alors une bonne confiture?
Alors la consistance, elle est très importante. Elle doit être ni liquide ni totalement figée. Très important pour la présence aussi des fruits. Moi, j'aime bien quand les fruits sont entiers.
Il faut qu'il y ait des morceaux.
Ah oui, c'est bon.
Souvent, on a tendance à faire cuire nos fruits. On va venir les mixer. C'est bon quand c'est entier, comme la cerise que j'ai bien.
Vous avez quasiment terminé. Soyons honnêtes. Le pot, il reste un fond. Ouais. Julia, si vous voulez goûter la cerise noire, elle a l'air délicieuse.
Et il faut maîtriser aussi la cuisson de votre confiture. Il faut vraiment qu'elle ait une texture assez gélifiée, assez tartinable, presque comme une compote. Si on la cuit trop, elle va devenir très brune, donc avoir une texture comme du caramel, donc très dure et pas facile à tartiner. Donc il va falloir la passer à chaque fois au micro-ondes pour la faire fondre.
Quelle est la bonne recette alors pour faire une confiture? C'est ça que vous vouliez dire? Non, vous vouliez nous parler des produits qui.
Non, c'est bon. Ouais. Ouais. Alors la bonne recette, on en est où? Voilà. Alors la bonne recette. Alors surtout là, on est en plein été. Là, c'est les fruits de saison.
Ah, ça commence. Les cerises arrivent. Ouais, ça y est. Ouais.
Moi, j'ai une petite astuce. Ce que je fais, c'est que je demande à mon primeur. Il a toujours une petite cagette d'abricots, de fraises, de cerises un peu abîmées, un peu trop mûres. Vous lui achetez, c'est moitié prix et vous allez les mettre dans votre marmite à fermenter presque avec le sucre et on va faire cuire tout ça. Et en plus, c'est hyper bon.
Mais alors, qu'est-ce qu'il faut comme matériel? Pardon, je vous coupe, mais.
Une casserole déjà,
une bonne casserole en cuve, ouais.
Vous avez ça, une casserole.
Ou en cuivre, voilà, une grosse casserole, une spatule en bois, c'est tout ce qu'il faut pour une confiture. Alors, moi, je vais vous donner la recette d'une confiture de cerises. Au romarin. On a du romarin dans le jardin,
original,
des petites cerises. Alors il vous faut 1 kg de cerises dénoyautées, 450 g de sucre en poudre, deux tiges.
Excusez-moi, je vous arrête sur le dénoyauté parce que alors dénoyauter les cerises.
Bon, ça va, vous donnez ça à vos
enfants. 1 kg de cerises à dénoyauter.
Font, c'est facile ça,
il y a pas
de galère.
Moi, ils le font dans la bouche directement. Donc ils mettent chaque cerise, ils me sortent.
Vous payez votre primeur, il va vous le faire. Alors deux tiges de romarin, un citron jaune pressé et 30 centilitres d'eau. Vous allez commencer par porter à ébullition l'eau, le sucre et le citron et la tige de romarin parce qu'on va venir
infuser le romarin.
Voilà. Donc à peu près 30 minutes, on va mettre un papier film, on éteint le feu, donc le romarin va infuser. On enlève
un film sur la casserole, c'est ça?
Sur, enfin,
un papier
dessus.
Cuisson? Non,
un film alimentaire.
Un film alimentaire,
le classique,
d'accord. Okay.
Voilà, pour infuser, donc on éteint le feu, on laisse infuser à peu près un quart d'heure, 20 minutes.
Parfait.
On enlève cette tige, donc ce sirop, il a vraiment le goût du romarin. On va venir plonger nos cerises dedans. On va les laisser 12 heures dans ce sirop. Elles vont presque fermenter, ces cerises. Le lendemain, on arrive, paf, on allume le feu, on laisse vraiment feu moyen pendant 30 minutes. Vous allez voir, ça va compoter, ça va faire une petite mousse au-dessus qu'on appelle l'écume. On peut l'enlever ou on peut la garder, il n'y a pas de problème s'ils sont bien lavés vos fruits. Et là, on va venir déposer ça dans des petits pots, dans des vieux pots, hein, comme disait ma mère. Mmh. Et on va venir donc fermer ces pots, on va les retourner pour qu'ils se... comment on appelle ça
L'air s'en aille. Voilà, et c'est comme on fait des conserves.
Pour les conserves,
quoi.
Exactement. Ouais, et une fois qu'ils sont retournés, refroidis, on les met au frais ou dans un endroit très sombre, pas de lumière.
Pour la conservation.
Et on peut les conserver presque un an comme ça, dans un coin de sa cuisine.
Très rapidement, les pots, parce qu'on n'a plus de temps, Abdel. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous nous aviez amené, là, de bonne confiture?
J'ai une confiture de fraises des bois. Alors, ça c'est le comptoir de Mathilde. Eux, ils utilisent des fruits 100% naturels. Il n'y a pas beaucoup de sucre. Des fruits de saison aussi. Et ils sont assez originaux dans leur confiture.
Je vais goûter
ça. Goûtez la figue noire.
Vous avez fait une tache de confiture.
Mais non.
Elle tâche pas, celle-là, elle est naturelle.
C'est bon. Goûtez la figue noire.
Moi, je vais goûter la fraise. Là,
elle est hyper bonne. Donc, le comptoir de Mathilde, et c'est hyper bon. On les avait déjà présentés. On avait parlé d'eux avec les chocolats pralinés.
Ah oui, c'est super.
Ouais, la pâte à tartiner. C'est
la fraise,
bon.
La fraise, là, c'est délicieux.
Ah oui,
hyper
dingue.
Bon.
Merci beaucoup, Abdel. Et merci surtout de nous avoir bien ouvert l'appétit. Ça tombe bien, il est presque midi. Et justement, bien fait pour vous. C'est terminé. Pas d'inquiétude. On se retrouve lundi à la même heure. Dès 11h, Julia, on va s'intéresser à quoi lundi?
Eh bien, on va vous emmener à la découverte de l'organe de la vie, notre cœur, un organe fascinant dont on va vous dévoiler tous les secrets, de son fonctionnement normal à ses pathologies, en passant par ses interactions avec les autres organes. On va tout vous expliquer, surtout comment en prendre soin au quotidien, sans trop de prise de tête, c'est promis. Alors à lundi.